Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'essaie de faire mon mieux, d'apporter pire le déficit et donc je suis content.
Je terminerai en vous disant simplement sié. Et puis c'est tienne. Merci et au revoir.
Au nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
22h02, vous êtes sur RMC. Comme chaque soir, l'after est là jusqu'à minuit. On vous attend 32-16. Max est là au standard. Si vous avez jamais tenté l'expérience, c'est le moment. Vous allez voir, Max est sympa. Flo Gautreau et Thibaut Leplat également. Salut Thibaut. Oui, attention, le micro. C'est la censure.
C'est pas le bon.
Ça y est, c'est bon. Ça y est.
Ah, camarade, bonsoir.
Ça va ?
C'est bon ?
Ouais. Avec ta jolie veste.
Ah, c'est la même que Nico Jamin, il m'a dit.
Ah oui, bah c'est la même que Mélenchon.
Ah. Je ne prononcerai pas.
Je sens la déception dans ta voix.
J'essaie de garder un peu de neutralité.
Bonsoir Flo Gautreau. Ami du bémol, bonsoir. Voilà. Il n'est pas là encore. Il va rien vous cacher. Vous savez qu'on vous cachera
dans l'after. Il va essayer de se garer.
Je pense qu'il y a un problème de garage en ce moment, effectivement.
Paris.
Il passe des trucs dans Paris en ce moment. Il se passe des trucs dans Paris en ce moment. Il arrive, Flo Gautreau, bien sûr. Je vous rappelle qu'on est en direct également sur la chaîne Twitch RMC Sport. Au programme de ces deux heures, nouvelle défaite du PSG, mais un soutien affiché des ultras parisiens. Comprenez-vous cette posture? Les ultras du Paris Saint-Germain sont-ils trop gentils? 32-16. Avis tranché de Flo Gautreau qui en kiffe devant Lens et Lille. La boussole de la Ligue 1 indique le Nord, nous expliquera-t-il. Avis tranché de Thibaut Leplat. Nice a montré ses limites face à Lorient ce week-end. Il va nous expliquer pourquoi, Thibaut. Jean-Michel Aulas était l'invité du Super Moscato Show sur RMC aujourd'hui. Il a assuré que Blanc sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Supporter lyonnais, comment réagissez-vous à cette annonce? Là aussi, Max vous attend au 32-16. Et puis, J-5 avant le premier match des Bleus post-Coupe du Monde. Les dernières infos de l'équipe de France. On écoutera Didier Deschamps qui était aujourd'hui en conf de presse. Il s'est notamment exprimé sur le capitanat, la hiérarchie des gardiens et sur Karim Benzema. Soyez les bienvenus. L'after, c'est parti jusqu'à minuit. Il est là, l'ami du bébol.
Salut les gars.
Comment il va celui-là?
Bah, bien, vous?
Alors, t'as galéré ou quoi là?
Je vais pas dire pourquoi, mais bon.
Bah, si, alors, on imagine, non? Je pense que.
Il y avait du monde sur la route, quoi.
On a une hypothèse, quoi.
Ah, il y a deux, trois événements dans Paris qui.
Deux, trois poubelles qui tombent à arrêt la route.
Ouais, un peu. Mais bon, j'ai pas bien géré, sur l'itinéraire.
Ah. Il y a eu de ça aussi?
Non, mais voilà, il fallait anticiper, effectivement, tout ça. Mais je suis là.
Il est là, effectivement. Il était déjà là hier, Flo. Toi, t'étais pas là hier, en revanche, Thibaut. Alors, on rappelle, parmi les résultats marquants du week-end, la victoire de Rennes 2-0 au Parc des Princes, le PSG qui compte 7 défaites cette saison. Alors, il y a un truc qui est assez curieux. Les 7 défaites en 2023. Donc, 7 défaites sur les 17 derniers matchs pour le Paris Saint-Germain. On t'avait entendu hier, Flo. On t'a pas entendu, toi, Thibaut. Quelle analyse tu fais, toi, de cette nouvelle glissade des Parisiens?
Après, c'est difficile. On vous l'avait dit beaucoup les semaines passées. C'est difficile d'avoir une analyse rationnelle sur ce club. Parce qu'un club de football dont le problème principal est le football, ça devient un peu difficile à comprendre. Ce qu'on voit, c'est que il y a le phénomène de la Coupe du Monde au Qatar, voilà, c'est un phénomène de décompression après, parce que de toute évidence, les stars principales de cette équipe se préparaient pour le Mondial au Qatar. Le Qatar qui est aussi partie prenante dedans, parce qu'étant aussi propriétaire du club, l'événement de l'année au Qatar, c'était la Coupe du Monde, c'était pas le PSG ni la Ligue des Champions. Donc tout ça amenant une sorte de... Je crois qu'on a un PSG un peu entre deux feux qui est en train d'essayer d'un peu de se réinventer, savoir quel va être le vrai projet du PSG une fois que la Coupe du Monde du Qatar est passée. Maintenant, que faire de ce club? Il y a l'affaire Manchester United en même temps. Donc on est dans un moment où les...
Ouais, le potentiel rachat par les Qataris.
Voilà, ouais, pardon. Le potentiel rachat, ce qui fait que tu as une sorte de tectonique des plaques là qui est en train d'opérer. Et je pense que ça se rejaillit sur les joueurs. Et c'est toujours comme ça dans les clubs. Tout à l'heure, on parlera de Nice. C'est le cas inverse, plutôt à Nice. Quand t'as un management comme ça qui est, je vais dire, hésitant, qui est pas clair, c'est moins qu'on puisse dire au Paris Saint-Germain, ben ça rejaillit irrémédiablement sur l'équipe. Et qui, en plus, en l'équipe en question, t'as Neymar, Messi, et une intersaison ratée. Ça donne, dans le moment de vérité, si je puis dire, c'est le moment où tu vas chercher les titres, c'est le moment où tu vois la vérité de cette équipe, quoi.
D'ailleurs, il y a pas mal de...
Si quelqu'un a compris quelque chose à ce que je viens de dire.
Non, mais de toute façon, personne ne comprend rien à ce que tu dis, hein, Thibaut, à part toi et Régis Lebris, hein, on va pas se mentir. Hein, il va podcaster, il va être content. Juste quelques infos, parce qu'il y en a eu pas mal ces dernières heures. Info RMC Sport, Christophe Galtier devrait rester l'entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'à la saison prochaine. Et tout à l'heure, tu montrais, Thibaut, il y a une rumeur qui commence à revenir au Portugal. Ouais. José Mourinho.
Ouais, mais c'est le principe un peu des rumeurs. Ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que c'est toujours ce dont on parle, c'est toujours un peu vraisemblable. Il y a toujours un peu de, c'est le fameux, il y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc effectivement, je pense que le personnage, le seul profil d'entraîneur qui soit capable d'avoir de l'autorité, de s'imposer dans ce vestiaire-là.
C'est un Guardiola qui dit ça.
Voilà, un Guardiola qui le dit, mais juste, et pour cause, je pense que l'autre, ce serait Guardiola, mais jamais il viendra au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que Mourinho est la seule personne, je sais pas si c'est le recours, l'homme providentiel, en tout cas, c'est la seule personne pour ce job-là. Tous les autres sont, soit ont pas moins d'expérience, soit ont gagné, ont moins de titres, soit ont plus à perdre que lui.
Et puis il y a la personnalité aussi.
Oui, puis lui, il a pas grand-chose à perdre. Ouais. Je veux dire, au PSG, qu'est-ce qui peut lui arriver? Au pire, il part au bout de 5 matchs. Et alors, en fait, sa carrière, elle est un peu derrière lui quand même.
Et puis en plus, c'est un truc qui pourrait le botter, enfin, qu'il l'aurait botté.
Il est francophone. Hein. Il parle très bien français, Mourinho.
Sauf que, à mon avis, on se trompe un peu en allant toujours en plongeant sur le problème de l'entraîneur. Autant moi, là, j'ai dit hier, je pensais que Galtier devait arrêter au plus vite parce que là, je pense que il est perdu. Ça, c'est une chose ponctuelle, conjoncturelle. Mais je pense qu'on se plante si on est déjà sur les cartes et sur le problème de l'entraîneur et sur le profil. Parce qu'en fait, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, plus globalement sur la stratégie des Qataris, moi, je reviens même plus simplement à la stratégie sur le PSG. Si tu ne mets pas en place une stratégie sportive, c'est-à-dire en te disant oui, c'est une connerie, prolonger Messi, mais oui, évidemment qu'on va pas le faire. Neymar, évidemment qu'on va essayer de s'en débarrasser, enfin de s'en débarrasser, de le faire partir, parce que effectivement, c'est pas la bonne stratégie sportive. Si t'as cette réflexion-là, j'y crois pas trop, hein, mais pourquoi pas. Là, peut-être qu'un coach, y compris Mourinho, ou un autre,
Mourinho n'est pas un coach.
Mais malgré tout, mais quel que soit le
problème, si tu ramènes à Mourinho et qu'il n'est pas soutenu en haut.
Non seulement en haut, mais si en plus, même il a ce vestiaire à gérer, bien sûr que lui va prendre des décisions, bien sûr qu'il va les mettre sur le banc. Sauf que, même tout Mourinho qu'il est, c'est une des emmerdes à gérer considérable, alors que la stratégie sportive, déjà, elle doit être affinée. Donc, je pense que nous-mêmes, observateurs, comme les dirigeants, si immédiatement on plonge, en dehors du fait que Galtier doit arrêter parce que je pense que c'était prématuré dans sa carrière et il n'avait pas les épaules, ok. Mais si on plonge tout de suite, immédiatement, comme eux le font d'ailleurs, tous les ans et demi ou tous les deux ans, sur quel entraîneur alors on met ? On met un mec plutôt expérimenté ou on va chercher un jeune en devenir parce qu'il va nous obéir ? Non, on se plante. Changer la stratégie. Arrêter avec Messi. Arrêter avec les ventes de maillots. Moi, je l'ai dit, le sportif en premier. Des jeunes du cru, mais pas seulement. De très bonnes recrues de Ligue 1 et des excellents joueurs étrangers. Cancelo, par exemple, qui arrive au Bayern, qui joue pas ce profil-là.
Bon, lui, je le vois bien au PSG la saison prochaine.
Mais voilà. Mais ensuite là, t'auras un grand coach, quel qu'il soit, de par sa personnalité ou ses compétences techniques avérées, qui dira, là, ok, j'y vais. Il n'y a pas Messi, j'y vais.
Pour moi, Mourinho, c'est pas un projet sportif.
Ouais, mais
c'est pour ça que c'est la personne.
Donc, tu continues dans le grand carnaval.
Non, parce que je dis que c'est même pas un profil, c'est-à-dire que c'est le seul qui est capable de à la fois avoir des exigences sportives élevées, essayer de s'y tenir, mais surtout qui est capable d'avoir ses propres réseaux, sa propre manière d'influencer le club aussi. C'est un homme politique, Mourinho, c'est une sorte de Machiavel du football. Qui est parfaitement capable de s'opposer à Nasser Al-Khelaifi.
Oui.
Alors ça pose un problème à l'interne du club, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils vont hésiter. Mais il a déjà travaillé avec Luis Campos, il a travaillé au Real dans des conditions difficiles. C'est le seul mec avec un club en l'état actuel des choses, tel qu'il est, si le club ne change pas, c'est la seule personne. Si le club change, on peut envisager un nouveau recrutement. Parce que moi, Mourinho, je suis pas ma tasse de thé, le football qu'il va proposer.
Mais je pense que
c'est pas ce qu'on va lui demander.
Mais même un Mourinho, si par exemple, il décide de prolonger Messi, prenons ce cas qui est pour moi emblématique. C'est déjà, quelle que soit la position de Mourinho, qui aura certes plus d'emprise sur un vestiaire que l'avait Galtier. C'est compliqué.
Ouais, mais il n'aura pas d'état d'âme à se passer de l'un des trois.
Il y va pas si Messi prolonge.
Voilà, c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'il faut cleaner la situation d'une manière ou d'une autre, ou pas. C'est-à-dire que soit ils assument le côté on vend des maillots, on fait du business, et donc
mais ça change l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, mais
comme Mourinho,
mais
tu peux faire du business.
Fait vendre des maillots.
L'un n'empêche pas l'autre si tu mets la priorité sur l'un par rapport à l'autre. Après, qu'effectivement, moi je l'ai toujours dit, tu vendras des maillots et tu vendras des loges et tu agrandiras le stade sans problème. C'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve que par exemple cette prolongation, ces prolongations, puisque Marquinhos, Verratti, c'est déjà le cas. Ce sera un signal par rapport à la stratégie à venir, parce que on est nous-mêmes les dupes chaque année. On nous vend un truc, on essaie d'y croire. On a essayé d'y croire l'été dernier quand Campos est arrivé en disant attention, ça va changer.
Un truc, quand il arrive au Real, Mourinho, c'était en 2009. Il dit une chose très intéressante. Il dit, c'est à l'époque où le Real n'arrive plus à gagner la Ligue des Champions et dans une période de crise. Et il a une phrase très intéressante. Il dit, il faut arrêter de penser. Il dit, c'est la Champions League, c'est pas une obsession, c'est une illusion. C'est illusion au sens espagnol. C'est-à-dire, c'est un rêve.
Voilà.
C'est pas une illusion au sens français. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser la Ligue des Champions comme une obsession, qui est exactement le problème du Paris Saint-Germain. Donc c'est dans ce sens-là où je pense qu'il peut donner un peu de réalité à ce club-là en lui disant, écoutez, arrêtez avec la Ligue des Champions. Mm-hmm. On va commencer par essayer de faire un club de football. Et pour faire un club de football, il faut se débarrasser de Neymar, de Messi, d'un certain nombre d'habitudes qui sont mauvaises, régénérer le staff et à nouveau, peut-être, cette fois-ci, construire quelque chose sur le long terme. Sachant que lui, le long terme, ça l'intéresse pas. Lui, s'il tient deux ans, déjà, c'est un miracle. Mais, en tout cas, lui va poser les bases. Ce qu'il a fait au Real. C'est lui qui va chercher Ozil, c'est lui qui restructure le club. Il va chercher Campos, c'est Campos qui fait venir au Real. Donc c'est à mon avis la seule personne dans l'écosystème actuel qui est capable de survivre.
Très très court, Nico. Juste pour dire, pour refaire la boucle avec le match d'hier, ce que moi j'ai dit effectivement, ce qui est terrible, c'est ce parc à faune, c'est super. Bah
justement, c'est là-dessus qu'on va venir.
Et c'est ça qui est le plus terrible, parce que ce changement qu'on réclame, dont on parle là, il devrait être réclamé plus fort par les supporters eux-mêmes, parce que à chaque crash on dit ah, c'est bien parce qu'un bon crash ça va nous permettre de toucher le fond de la piscine et de changer tout, et en fait ça n'a pas été le cas depuis deux, trois, quatre fois que ça arrive.
Et bah, donc, magnifique transition,
c'est aux supporters de prendre
et on les attend au 32-16, supporters du PSG. Est-ce que vous comprenez la posture notamment des ultras du parc hier lors du match face à Rennes? Les ultras du PSG sont-ils trop gentils? Comprenez-vous leur posture? Max vous attend au 32-16. Nous revient dans un instant avec Flo Gautreau et Thibaut Leplat. Tout de suite sur Rennes.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
22h15, vous êtes sur RMC avec Thibaut Leplat, avec Flo Gautreau. On vous attend au 32-16, supporters du PSG. Parce qu'hier, les retrouvailles entre ces mêmes supporters et les joueurs parisiens étaient très attendues après l'élimination des Parisiens en Ligue des Champions. Accueil plutôt réservé à l'encontre de Lionel Messi. Il y a beaucoup de choses qui avaient été annoncées, notamment en Espagne, comme quoi elle allait être sifflée. Ça a été plutôt tranquille concernant l'Argentin. Pas de réelle réaction dans les tribunes. Une forme de résignation, a-t-on constaté. Le collectif Ultra Paris prône l'Union Sacrée, a soutenu l'équipe malgré la déroute, le déroulé de la rencontre face au Rennais de la part des Parisiens. Comprenez-vous la posture des Ultra Parisiens? On vous attend au 32-16. Thibaut Flo, qu'est-ce que vous avez pensé de cette ambiance finalement? Il y avait beaucoup de supputations quant à l'accueil qui allait être réservé aujourd'hui PSG. Ça a été finalement plutôt tranquille hier.
Après, c'est fidèle aussi à la tradition du club, hein. C'est-à-dire que tant que la saison n'est pas terminée, c'était un titre en jeu. Ouais, mais on a eu le même débat l'année dernière. Il y a eu la même hésitation. L'idée, je sais pas si on peut la partager ou pas, mais l'idée, c'est que s'il y a un titre en jeu, bah, il faut soutenir l'équipe, en particulier si c'est le championnat. Voilà. Après, on peut se dire que, à force de s'en tenir à ce mot d'ordre-là, il se passe pas grand-chose et toutes les années, on répète les mêmes erreurs et on répète les mêmes issues. Donc peut-être, il faut peut-être changer de stratégie là-dessus. Moi, sur ce plan-là, je trouve effectivement que le public a été plutôt gentil. Après, la configuration du match a fait qu'il y a eu quand même des occasions. Enfin, le match n'était pas plié, quoi. Ça a été plié au deuxième but. Mais après, je trouve que c'est un peu injuste d'en vouloir aux supporters, parce que le supporter, il fait un peu ce qu'il veut. S'il a pas envie de siffler, il siffle pas. Et je crois qu'il faut pas non plus surinterpréter, à mon avis, ce parc qui est lui-même un écosystème un peu bizarre maintenant depuis l'arrivée des Qataris.
Ouais, mais c'est quand même ce qui est terrible, c'est qu'il y a une chose, il faut le dire, parce que finalement, ça s'est passé doucement, petit à petit. C'est que le parc, en dehors du Cup, on va déjà parler des autres tribunes, est devenu un parc d'attractions avec des spectateurs très tranquilles qui vont au spectacle. Je caricature, certains vont dire c'est pas vrai, moi je viens depuis 20 ans, mais il y a beaucoup ça. Les prix.
D'ailleurs, le CUP, la fameuse banderole qu'ils font, c'est un peu pour dénoncer ça, avec le QR code en disant maintenant
ça brouille le message. Ouais, ça brouille le message.
Eux, je pense qu'ils sont pas sur le bon message.
C'est un peu ce qu'ils dénoncent aussi.
Mais t'as raison, et c'est pour ça qu'il faut le redire. Je pense que déjà, le parc, la gentrification du parc, pour faire simple, c'est vraiment une réalité. Ce qui fait que pour ceux qui y allaient il y a longtemps, Thibaut y allait vraiment dans les grandes années, le parc n'est plus le même, faut le dire, pour ceux qui vont de manière espacée, parce que déjà, quand tu regardes pour aller au parc, je peux le dire, quand t'es en province et que tu viens, tu regardes les prix et les machins, déjà, t'as du mal parce qu'il n'y a pas de place. Il y a ce fameux système de revente qui est compliqué, etc. Donc, déjà, les tribunes, c'est très particulier, c'est un autre stade, c'est une autre histoire. Donc, il s'est fait gentiment. Puis après, sous couvert d'une bonne raison, avec le plan Le Prou, on a pacifié les tribunes, tant mieux. Et c'est vrai que le CUP, à force de dire on est toujours réglo, on est toujours correct, ce qui est le cas, ils se sont un peu assagis. Et juste pour finir, c'est vrai qu'hier, qu'ils se soient assagis et qu'ils aient l'intention d'encourager leur équipe, par exemple. Normal, plutôt bien. La saison n'est pas terminée, il faut gagner le titre, pourquoi pas. Mais ce que je reproche presque, c'est leur manque de réactivité. Hier, il s'est passé un truc particulier, c'est que l'équipe a été catastrophique, n'a pas joué, ne s'est pas rebellé contre ce qui se passait. Contre une équipe de Rennes, qui n'est pas du tout la meilleure équipe de Rennes de la saison, qui n'est pas une grande équipe de Rennes. Mmh. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que, quelles que soient les banderoles, ça, c'est du préparé. Il y a aussi parfois la spontanéité, des slogans qui s'organisent pour dire que ça ne va pas.
La pacification ne peut pas se faire au prix de l'exigence. C'est-à-dire que moi, je pense par exemple au Bernabéu, je connais bien. Bernabéu, c'est pareil, un stade qui s'est un peu gentrifié, là pour le coup, on est au spectacle, on est au théâtre, mais l'exigence demeure. C'est-à-dire que si tu lâches un match, si tu lâches une compétition, tu vas avoir les mouchoirs blancs. Mais il les dégaine pas si vite que ça. Il faut vraiment qu'il y ait un certain nombre de circonstances qui font que.
Non, mais là, il les aurait dégainés depuis un moment, je pense.
Oui, là, il les aurait dégainés depuis plusieurs saisons déjà. mais je veux dire, la sociologie du stade est à peu près la même. Simplement, l'exigence, elle est beaucoup plus élevée. Donc, il faut arriver à maintenir cette pacification tout en progressant peut-être sur l'exigence.
La petite différence, juste, désolé pour l'auditeur, mais la petite différence, c'est que pour être allé comme ça en touriste au Bernabéu, il y a pas cette dimension qui reste derrière la tribune, derrière les buts, où tu te dis ah là il y a quand même les vrais à Paris, à Madrid.
C'est tout le stade Madrid.
C'est tout le stade et c'est un peu sinon c'est plus calme.
C'est sociaux, tu as 10 ans de liste d'attente pour être.
Alors on accueille Bilal, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Bilal.
Salut les gars.
Salut, ça va Bilal?
Ouais, ça va, impeccable. Hein.
Bon alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu comprends la posture des ultras parisiens? Est-ce que tu trouves que les supporters du PSG ont été trop gentils finalement hier?
Ben écoute, moi je la comprends pas du tout. Et ça c'est depuis le début de saison. Je tiens à rappeler qu'à l'issue de l'élimination en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, on avait monté un petit mouvement sur Twitter pour aller se plaindre au camp des loges auprès du club pour leur demander des comptes par rapport au match qu'on voyait sur le terrain. On n'était pas du tout satisfait. On avait un peu en sous-marin les hauts dirigeants, entre guillemets, je dirais, du CUP, qui nous ont dit oui, nous on se désavoue, ça vient pas de nous. En gros, c'est un mouvement qui est né tout seul. En gros, en fait, je pense que le CUP aujourd'hui, c'est un peu les faire-valoir du club. Ils sont là, ils sont un peu pris en otage. Ils ont peur pour leur place. Ils font les petits supporters modèles. Ils ont fait hier, l'année dernière, leur petite grève, leur petit caca nerveux. Maintenant, ils vont plus le faire parce qu'ils sont, tout simplement, ils sont pieds et mains liés. Et en fait, on entend parfois qu'on a des entraîneurs qui ont les mains liées. Mais moi, je vous dis, les supporters du CUP ont les pieds et mains liés. Le Romain Mabil, qui dirige le CUP, il est parti faire la paix avec Neymar et Messi.
Après Bilal, parce qu'on, même nous, on parle des ultras et du CUP, mais il n'y a pas que le CUP non plus dans le Parc des Princes. Hier, il y avait une forme de résignation générale dans le parc.
Non, mais en fait, le problème du Parc des Princes, c'est qu'aujourd'hui, la seule voix qu'on entend, c'est le CUP, le CUP. Et en fait, nous, les supporters, une grande partie du noyau des supporters du PSG, des anciens supporters qui sifflaient au Parc des Princes quand on avait une défaite, parce que quand on avait un match catastrophique, honteux, quand on avait un engagement qu'on a aujourd'hui qui est nullissime, des joueurs qui marchent, qui ne viennent même pas saluer les supporters, avant, on sifflait. On faisait partie de la tribune. Maintenant, avec l'augmentation des tarifs, etc., et l'âge, on se désintéresse de plus en plus. Et vu ce que le PSG est en train de nous donner, il va y avoir un désintérêt de plus en plus. Et il y a une scission entre les supporters historiques du PSG et les supporters qui sont actuellement au stade. Moi, je peux vous dire que les supporters qui vont au stade ne sont pas forcément représentatifs des historiques du PSG. Et ça, c'est une vérité qu'il faut mentionner. Les supporters du Cup, est-ce qu'on peut me donner leur moyenne d'âge, les supporters du Cup? Moi, elle est entre 20 et 30 ans, pas plus. Hein. Mm. Entre 20 et 30 ans, c'est des gars qui, il y a 10 ans, ils étaient adolescents. Donc, je suis désolé. Moi, je ne me sens pas représenté ni par le Cup, ni par ce qu'il y a actuellement au Parc des Princes. Aujourd'hui, Galtier, il est en course pour être le plus mauvais entraîneur de l'histoire du PSG avec Guy Lacombe. Personne ne nous demande sa démission au stade. Personne ne siffle après un recrutement de Campos catastrophique qui fait reculer les clubs. Personne ne siffle sur Messi qui ne montre aucun intérêt en vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du club, vis-à-vis du maillot qu'il porte, qui est dans le désintérêt total. Personne ne siffle de rien. En fait, ça y est, maintenant, tout est normal. Tout est
Bilal, normal. Bilal, est-ce que toi, tu sifflerais même si tu as un titre en jeu?
Écoute, siffler un match et célébrer un titre, c'est deux choses différentes.
Franchement, tu crois que c'est pas possible de siffler dans, alors que t'as 10 points d'avance et que
tu perds hier, tu joues mal, enfin il y a rien qui va sur match.
Ouais, c'est toujours premier, t'as ça.
Attends, et moi je suis pas le genre de mec à prôner ce genre d'attitude, mais
ça. Non, franchement, moi je pense que là,
moi c'est plus l'indignation que la résignation, pardon.
Voilà. Là, je pense qu'on est arrivé à point de non-retour parce qu'il y avait une indifférence, comme l'a dit Bilal très justement. Je parle pas du CUP là en l'occurrence, mais même dans le stade, parce que parfois il y a aussi des manifestations dans le stade. Bon, les gens viennent, ils disent « Oh, c'est con, c'est pas si bien que d'habitude, on se régale pas. Bon, alors on repart, c'est pas grave. » Ok, mais de la part du CUP, effectivement, et en général dans un stade, je dis en écho aux manifs pacifiques qui ont eu lieu globalement depuis un moment, même si là, ça bouge un peu. Quand il y a des moments, il faut s'exprimer. Et dans les stades, on sait souvent... Moi, j'ai souvent trouvé qu'on le faisait de manière un peu abusive, c'est-à-dire trois défaites de rang dans un club, la grande banderole un peu insultante pour les dirigeants, mettez vos sur la table, machin, bon, le truc pas forcément toujours très fin, mais néanmoins, de toute façon, c'est une prise de parole. Là, moi, je suis surpris, et je te dis, c'est aussi là le côté tifo, banderole préparée, slogan préparé, c'est bien. Ouais. À un moment donné, ton âme, ton cœur, quand ça va pas, tu peux organiser deux, trois chants pour essayer de te faire entendre, pour dire que c'est pas possible. Parce que ce qui s'est passé hier, quand même, il y a des moments, il y a deux, trois trucs de foutage de gueule. Hier, c'était un peu pire que ça. C'est qu'entre les jeunes, effectivement, de l'équipe, qui n'allait pas prendre ça, on va dire, le taureau par les cornes, qui n'avait pas la possibilité, les muscles et peut-être le mental. Et puis les autres qui avaient lâché l'affaire très rapidement, qui ont lâché l'affaire très rapidement. Il y avait quand même un truc. Là, il y avait un truc à dire.
Merci à Bilal qui nous a appelé au 32-16 et on accueille Charles également qui nous a appelé. Salut Charles.
Salut Nico.
Salut Charles.
Comment il va Charles?
Bah il va modérément bien. Comme beaucoup de supporters parisiens, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que t'en penses toi justement de l'ambiance qui règne au Parc des Princes ces derniers temps?
Bah l'ambiance qui règne au Parc des Princes, elle est similaire à tous les éléments de langage que le club nous a donné ces 10 dernières années. On est tellement obnubilé par la Ligue des Champions que là, qui a éliminé la Ligue des Champions, t'as, je sais plus combien de points d'avance maintenant sur Marseille, mais en fait, t'as l'impression que ta saison est terminée et qu'en fait, il n'y a plus tellement d'enjeux. Donc en fait, le parc est dans une apathie qui est similaire à l'équipe, hein. En fait, le parc ressemble à ce qu'on a vu sur le terrain. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est terminé, quoi. On va attendre le mois d'août pour que ça redémarre parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on nous explique ça. Donc forcément, moi, je veux dire, alors, je suis d'accord avec Flo, le fait de siffler les joueurs, c'est même pas sur la qualité de la prestation. Moi, j'ai vu le match, bon, voilà, mais c'est surtout sur l'engagement. Il n'y a pas d'engagement ni de générosité, donc c'est là où ça devient vraiment compliqué. Donc voilà, on va attendre gentiment.
T'as l'air résigné aussi, Charles. Hein.
À partir du mois de mars, Nico, c'est toujours une mort lente jusqu'à la fin de la saison. Ouais. On attend de savoir quand est-ce que l'entraîneur va se faire virer. Enfin, bon, voilà.
T'as l'air un peu blasé, résigné, Charles.
Bah, si tu veux, quand ça fait, et pourtant, et j'adore écouter RMC, mais ça fait 15 ans que j'écoute RMC.
C'est vrai que j'ai l'impression qu'on se répète un peu d'année en année.
On entend la même chose, ouais. Tu vois. C'est ça le truc, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes constats. Et moi, le seul truc, c'était pas tellement sur l'ambiance du parc, c'est que le seul truc que je voulais dire à Max que j'ai eu au Standard, c'est que la seule chose là qui est restée depuis l'arrivée des Qataris, c'est le président. Il n'y a aucune entreprise privée dans le monde avec les résultats qu'on a eus et les déceptions qu'on a eues où le président est encore là.
bon, il y a quand même des questions à se poser, parce qu'on peut parler pendant des heures des systèmes tactiques, des entraîneurs, des joueurs.
On en revient au début du débat sur Mourinho qu'on a eu tout à l'heure.
Le problème, c'est que c'est impossible d'analyser footballistiquement cette équipe. On essaye, on est là pour ça. Mais franchement, moi, je regarde les matchs, je me dis, tu peux pas faire une analyse même tactique. Déjà, en plus, avec Galtier, où il n'y a même pas de plan véritable, tu sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants des décisions. Il n'y a rien qui se décide sur le terrain, en réalité. Le terrain est complètement secondaire et le terrain devient un problème dans ce club. C'est-à-dire que tout fonctionne bien, le marketing, Kim Kardashian, Jordan et compagnie. Sauf que tout fonctionne bien, sauf l'essentiel qui est le terrain. Et on voit bien que tout ce qui se passe sur le terrain, enfin tout ce qui se passe dans ce club n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Donc forcément, on peut pas non plus reprocher aux gens d'être un peu perdus quand ils sont au stade. Tu dis bon, il y a Kim Kardashian, bon, très bien.
Charles a dit en une phrase finalement le principal. Nasser El Khelaifi.
Ah bah oui.
Parce que voilà, c'est vrai que si tu dois changer la stratégie, bah tu changes les dirigeants. Ça c'est pour n'importe quelle entreprise aussi. Évidemment il y a l'émir, donc faut voir quelle stratégie il souhaite in fine, parce qu'on sait pas vraiment, parce que je pense que
il est extrêmement important Nasser El Khelaifi dans le dispositif qatari, beaucoup plus maintenant qu'il était il y a 10 ans.
Si on reste dans cette idée du soft power en se disant a Nasser El Khelaifi qui gère, on va dire, cette partie du monde et autres,
il y a des pressions au niveau des instances européennes, etc.
Sauf que penser ça de leur côté, c'est légitimer le fait que effectivement, ça valide le fait qu'on est sur de l'économique et sur du soft power 100%.
On n'est pas sur un calcul économique en réalité. On est sur une dépense qui est une dépense somptuaire où on est là pour l'épate, on est là pour impressionner, pour stupéfier. C'est-à-dire, il faudra un jour qu'on en parle. Enfin, il y a des textes de bataille là-dessus, c'est très intéressant sur la dépense. C'est le seul intérêt de cette dépense somptuaire, c'est de stupéfier. C'est le terme qu'emploie Bataille. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, les Qataris, ils allongent. Je dis, on a un problème, on va redépenser des millions. Et les millions, c'est quoi? C'est de la pub. On va en parler. Et plus il y a des crises, plus on va dépenser. Et tout ça, c'est quelque chose qui se rétroalimente, qui fait que c'est pas du tout un club rationnel, ce que je disais tout à l'heure.
Mais tu vois, tu finis pas l'analyser. Avec des supporters, c'est stupéfiant, du coup. Donc, c'est un peu le problème.
Merci, Charles, d'avoir été avec nous.
Merci, Nico.
Ciao, bonne soirée, Charles. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Dans un instant, à Vitranché de Flogotro. La boussole de la Ligue 1, dit Clenor, va nous expliquer Flogotro dans le love du LOSC et du Racing Club de Lens. Supporter de ces deux clubs, on vous attend en 32-16 avec Thibaut Leplat et Flogotro. A tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
22h33, vous êtes sur RMC dans l'after, on est ensemble jusqu'à minuit avec Thibaut Leplat, avec Flogotro, avec vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio également. Tiens, il y a Zoloz qui nous dit Flo, t'as passé ton après-midi à regarder Equidia, c'est pour ça que t'es en retard. Voilà, c'est ce qu'il nous écrit sur l'application Direct Studio.
J'ai regardé un peu Equidia, effectivement.
Alors ?
En fait, ça m'a permis de communiquer avec mes anciens journalistes d'Equidia.
Alors ?
Parce qu'en fait, j'ai envoyé un petit texto, ils ont envoyé un truc, puisqu'il y avait un cheval qui avait un nom de groupe des années 80. Et donc, on a communiqué par SMS pour.
C'était quoi le nom du groupe ?
Kaja Gougou. Vous vous souvenez de ça ?
Pas du tout.
Tout shy.
Ah oui, ah c'est
oui, bah oui. Ah, ouais, oui, tu vas interplanétaire, interprété par Limal, qui était le chanteur de Kaja Gougou. Donc voilà, il y a un cheval qui s'appelle Kaja Gougou.
T'as des journées de fou, toi.
Ah, moi, je me positionne sur le biopic de Flogotro. Je veux être l'auteur de ce biopic.
Alors, parmi les résultats de Ligue 1 du week-end, la victoire de Lens 3-0 contre Angers qui fixe les Lensois à la 3ème place de Ligue 1, succès 2-0 de Lille à Toulouse, le LOSC qui a un point de la 5ème place et de l'Europe, du Stade Rennais. De quoi inspirer un avis tranché à Flogotro.
Max du Standard.
Salut les gars, et ça m'a étonné que Max soit nantais, je crois qu'il était belge. Ce qui est du Standard.
C'est du Standard, évidemment.
Excellent.
Tout à fait, c'était pendant le confinement.
Excellent, alors pour toi,
la boussole de la Ligue 1 indique le Nord, mon cher Flo. Tu es dans la kiffance du Racing Club de Lens et du LOSC.
Oui, je suis dans la kiffance du LOSC depuis le début, parce que enfin, j'espérais que ça allait bien se passer avec Fonseca. C'est globalement le cas tout le temps, enfin, même s'il y a des soubresauts. Sur Lens, c'est compliqué parce que on les attendait, il y avait pas mal de changements, on ne savait pas ce qu'allait faire Aiz avec cette deuxième saison. Et on n'est pas déçu, même s'il y a eu un petit coup de moins bien. Et je trouve que là, pour ce sprint final, ils arrivent lancés comme des balles. Ça va pas être simple pour plein de raisons. Je vais en reparler parce qu'il y a quand même, y compris en termes de classement pour Lille, du retard et notamment sur Monaco. Parce que toi, t'as parlé de Rennes, de la 5ème place, c'est vrai. Mais en tout cas, que ce soit Lens pour le podium ou Lille pour juste après le podium, 3-4, c'est jouable. Parce que ils ont trouvé la bonne dynamique et notamment, je vais commencer par Lens. alors qu'il avait un petit coup de moins bien, je trouve qu'il a été bien digéré et bien géré comme d'habitude par Hez. C'est-à-dire que contrairement à d'autres, je l'ai souvent dit pour Tudor, ça marche, hein, donc tant mieux pour lui, mais qui fait peu tourner, on peut lui reprocher parfois, notamment offensivement. Bah lui, il s'est pas affolé, il a sorti Openda au moment, enfin il l'a sorti, il l'a fait un peu sortir. Il a mis du Saïd, ils ont recruté Fulgini, Thomasson, évidemment recrutement intelligent aussi au mercato. Et il y avait pas de raison que ça marche pas. Hez est un homme, c'est le boss, c'est un homme écouté dans son vestiaire. Pas contesté, pas d'énervement au niveau des dirigeants, comme parfois à l'inverse, il y a peur d'avoir un petit peu du côté de Lille avec Fonseca, ouais, dès que ça tanguait. Donc là, la construction de ce qui est fait à Lens, le mercato d'hiver et je veux dire le turnover, voilà, qu'il a fait, c'est ce qui m'a frappé parce que je trouvais qu'ils ont géré ça sereinement, y compris Hez dans ses déclarations d'après-match, me laisse penser que Lens, qui a retrouvé du peps, qui a profité, à mon avis, de la Coupe du Monde pour travailler physiquement, parce qu'ils ont besoin, cette équipe-là, d'être fort physiquement. Pour les avoir vus là, évidemment, bon, ça n'était entre guillemets que Angers, mais ils sont bien lancés pour le sprint final. Ils ont un bémol, enfin j'ai un bémol, c'est leur calendrier, parce qu'ils ont sans doute l'un des plus compliqués,
ouais,
de tous.
C'est chaud ce qui les attend. Ouais.
Ils vont à Rennes, alors je ne vais pas vous le faire tout, mais ils vont à Rennes, notamment ils vont au Parc, ils reçoivent Monaco et l'OM. C'est eux qui ont le plus de concurrents directs à rencontrer d'ici la fin de la saison. Ensuite, Strasbourg, Toulouse, Lorient, Reims, Ajaccio, Auxerre. Et puis pour Lille, même constat par rapport à l'entraîneur, parce que quand je parlais de points positifs, c'est tout simplement sur le fait de voir jouer ces équipes. C'est, je vous dis, d'ici la fin de saison, viser les matchs avec Lille et Lens, ça va bouger, va y avoir de l'intensité. Les deux André Gomes et Benjamin André, c'est à mon avis ce qui se fait de mieux au milieu de terrain à l'heure actuelle en Ligue 1 pour passer à Lille. Et eux, Lille, ils ont un bon calendrier. Enfin, après, c'est pas faire offense aux autres équipes parce qu'il y a Lorient, pour commencer, c'est pas si simple, mais Lorient, à Angers, ils reçoivent Montpellier, ils vont à Auxerre, ils reçoivent Ajaccio, ils vont à Reims. Ils reçoivent Nantes, ils vont à Troyes. J'ai sauté les deux matchs un peu plus compliqués. Donc, ils vont à Monaco et ils reçoivent Marseille. Mais deux seules confrontations contre quatre pour Lens. Donc, Lille, pour des raisons de calendrier, pour ce qu'ils ont montré depuis un moment, parce que là, tu parlais des idées de jeu, tu dis, on ne sait pas ce que veut faire Galtier. Là, tu sais ce que veut faire Lille. Tous les joueurs savent ce que veut l'entraîneur. Je dis juste, effectivement, aux dirigeants, ne descendez pas près du banc dès qu'il y a un petit problème. Laissez faire les joueurs et l'entraîneur. Ça va très bien fonctionner. Et puis à Lens, je suis pas inquiet avec Hez, mais la compétitivité est dingue parce que même ce Lens-là, j'ai regardé par rapport à l'an dernier, ils ont fini 7e avec 62 points, 17 victoires, 11 nuls. Et ben ils ont déjà 16 victoires là à 10 journées de la fin dans cette saison-ci, et finalement ils sont pas si hauts que ça, hein. 9 nuls. C'est-à-dire qu'ils vont battre ce qu'ils ont fait les scores de l'an dernier. Sur les buts marqués, ce sera à peu près identique. Ils en avaient marqué 62, ils sont à 47. Là où c'est beaucoup mieux, c'est là où ils sont plus forts que l'an dernier, c'est que défensivement, ils avaient pris 48 buts l'an dernier. Ils n'en sont qu'à 21 buts contre cette année. Tu peux faire le ratio, c'est mieux.
Ouais.
Et c'est pas étranger au fait qu'ils ont trouvé en plus du reste un bon gardien, un excellent gardien, là où ils avaient, à mon avis, un point faible.
Est-ce que tu partages l'enthousiasme de Flo concernant les équipes nordistes?
Ouais, alors Lens, c'est une demi-surprise parce qu'ils sont sur une... La surprise, c'est qu'ils continuent à progresser. Parce que d'année en année, que ce soit depuis la Ligue 2 jusqu'à maintenant, d'année en année, c'est de mieux en mieux.
Avec des départs.
Avec des départs.
Klose, Kalimuendo, par exemple, qui était leur meilleur buteur l'an dernier.
Et avec à chaque fois des bonnes trouvailles.
Et Gisolfi.
Et Gisolfi,
c'est quand même pas rien. Non,
ouais, tout à fait.
Et il s'appelle Bessière aussi, le directeur de la performance. Ouais. C'est une équipe qui est en progression constante. Qui est une équipe qui est en recherche constante parce qu'on a un entraîneur qui est en recherche constante sur son travail, sur le jeu, sur le football. Ce sont des gens qui pensent à Lens, ce sont des gens qui réfléchissent à la stratégie de club, qui réfléchissent à la manière d'exprimer un certain nombre de choses liées au territoire lensois. Ce sont des gens qui pensent vraiment, qui pensent, qui font. Donc ils ont ils ont du recul et comme ils ont du recul, ils peuvent progresser. Donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est intéressant que cette progression se perdure dans le temps. Quant à Lille, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt rassuré parce que j'étais un peu inquiet pour Lille. Parce qu'effectivement, c'est certainement une des équipes qui joue le mieux au football en Ligue 1. C'est toujours des matchs très intéressants. C'est une équipe qui a vraiment des principes de jeu bien établis. Avec un entraîneur, je ne fais pas la réclame, on a déjà parlé plein de fois de Fonseca. Je renvoie à l'excellente interview de SoFoot du mois dernier là-dessus.
Joe Lamèche.
C'est la mèche, ouais, la mèche. C'est un travail de la mèche. De la mèche de Fonseca. Et donc, qu'il y avait une anomalie, c'est qu'il y avait un gros problème d'efficacité, qui était l'équipe dans le top 10 qui avait les expected goals les plus bas.
Ouais.
Enfin, les plus hauts au regard du nombre de, de buts marqués. Donc là, ils sont en train de refaire leur retard, mais ils sont encore un peu en retard, un peu en dessous du nombre d'occasions en réalité. Ce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'occasions, mais qu'ils les transformaient pas, et ils se retrouvaient dans des situations à perdre des matchs. Je me souviens du match contre Nice où ils jouent très bien, ils ont la possession, ils ont le ballon, ils ont des situations.
De réalisme, ouais.
Et il manquait, oui, de réalisme, il manquait de ce petite chose qui fait que d'un coup, ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est en train de basculer en leur faveur. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le football. Il faut toujours encourager les équipes qui prennent des risques, qui essaient de faire des choses nouvelles. Le Nord indique, la boussole du football indique le Nord. Oui, c'est, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ces deux équipes-là, un peu en miroir, et peut-être que la concurrence entre les deux a fait que les deux ont dû aussi se positionner. Et, parce qu'on connaît la rivalité entre les deux clubs. Ben, justement, ça encourage cette sorte d'évolution.
Accueillons Norman, supporter de Lens, qui nous a appelé au 32-16. Salut Norman.
Bonsoir messieurs.
Salut Norman.
Alors Norman, Flo est enthousiaste face à ton Racing et face au LOSC également. Tiens, une petite question pour toi. Francaise l'a déclaré il y a quelques jours. Hein. Il est complètement décomplexé par rapport à ça. Il vise l'Europe pour la saison prochaine, Francaise.
Heureusement. vu le parcours qu'on fait, vu le nombre de points qu'on a et l'avance qu'on a sur le sixième, il faut... Ouais, non, mais c'est quand même bien de se montrer. Maintenant, ça permet de décomplexer tout le monde et d'aborder le sprint final avec un objectif clair en tête.
Et qu'est-ce que t'en penses de ce que dit Flo, alors?
Bien sûr, je valide à 200%. Après, je mets juste un petit bémol sur le côté, bon, Lens, on les attendait un peu plus. Je vous invite à vérifier, à regarder les budgets. Lens, c'est une petite anomalie quand même dans ce top 6 ou 7 de Ligue 1 parce que on est à Lille, c'est 50% de budget en plus que Lens. Et après, on est sur des clubs qui ont quasiment 150 millions de plus que Lens en budget. Donc voilà, il y a juste ce petit bémol avec du recrutement très intelligent, effectivement, du Fulgini, du Thomasson, du Claude Maurice qui revient fort malgré la blessure qu'il a eue. Donc c'est la vraie satisfaction et c'est la continuité de ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est un groupe humble. Je dirais que c'est un peu... J'ai écouté votre débat avant, c'est un peu l'anti-PSG, quoi. C'est pas beaucoup de moyens, mais un vrai état d'esprit, une vraie équipe, des joueurs qui sont prêts à s'arracher sur le terrain, des mecs qui sont prêts à jouer arrière-droit, comme Sotoka, qui a joué arrière-droit contre Angers. Enfin, voilà. C'est que du bonheur pour nous.
Norman, je regarde, Max a précisé, t'es président de Lens United. Hein.
C'est ça, une fédération de supporters, tout à fait.
Et donc, c'est quoi? Ça regroupe plusieurs groupes
de supporters
de Lens, c'est ça?
Oui, quelques-uns. On regroupe une trentaine d'associations partout en France. On est sur tout le territoire et un peu plus de 3000 abonnés.
Bon, ça y est, vous êtes prêt pour la saison pro pour les Coupes d'Europe?
On a passé des consignes pour faire les passeports pour être sûr d'être prêt.
C'est bon ça, il se prépare. Alors, c'est bon.
Comment t'envisages l'Europe? Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors, évidemment, c'est un rêve de supporter et que effectivement, Lens a largement sa place. D'ailleurs, je pense que compte tenu de son style de jeu, c'est une équipe qui est taillée pour l'Europe. Je crois vraiment qu'elle est capable de faire des grandes nuits européennes. Mais est-ce
après,
que
après il y a la profondeur de banc aussi?
La profondeur de banc. Voilà. Est-ce que tu penses que et c'est possible que Lens soit capable de jouer sur les deux tableaux en même temps?
Après, je vais vous dire que si on y va pour jouer l'Europe, il faut la jouer. Et si c'est pour pas la jouer, autant en finir sixième et puis tout miser sur la Coupe de France. Donc, si on y va, il va falloir après, faudra voir ce que Joseph Oucourlian et Arnaud Pouille mettront sur la table cet été pour se renforcer. La bonne nouvelle, c'est qu'on a prolongé quasi l'intégralité des joueurs qui étaient en fin de contrat. Donc, s'il y a des départs, ça fera des belles rentrées d'argent. Mais il va falloir un peu renforcer en profondeur. Oui, je suis d'accord. Après, je suis pas très inquiet sur ce sujet. Et connaissant Franck Hayes pour le rencontrer de temps en temps, s'il se déplace pour jouer l'Europe, c'est pour la jouer à fond.
Norman, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous,
Norman.
Messieurs.
Belle fin de saison à toi. Tu reviens quand tu veux, Norman.
Merci beaucoup.
Salut, Norman. Tiens, un petit message sur Direct Studio pour finir sur ce thème-là. Kevin qui écrit. Samedi 19h, je regarde Metz à Quevilly parce que je supporte Metz. Ensuite, je m'élance. Impressionnant, la vitesse, le rythme, l'intensité. J'ai eu l'impression de regarder un autre sport. Bravo, Lens, nous dit Kevin.
Sauf que s'il était sur Quevilly-Metz, il a vu l'un des buts de la saison.
Ah.
Je vous conseille, je crois que c'était ce match-là, en tout cas un joueur de Quevilly qui a traversé le terrain et qui a mis un but incroyable.
Mais je pense que du coup il a pas aimé lui.
Ouais, mais regardez quand même parce que j'ai vu passer ça. Je suis supporter de Quevilly. Corrigez-moi, c'est sûr que c'est Quevilly. Je sais pas si c'est ce match-là.
Le petit Quevilly ou le grand Quevilly?
Le Quevilly Rouen. Le
Quevilly Rouen. Il joue à Diochon d'ailleurs, ouais, le stade historique de Rouen.
Exactement.
Qu'on devait appeler les Diables Rouges.
Les Diables Rouges. Ouais,
l'entraîneur quand j'étais petit dans les Panini était Robert Vico. Qu'on appelait le roi de la pomme de terre.
Jérôme Thomas a checké, c'est effectivement ça, roche de 70 mètres. Et figure-toi que Daniel Torres a checké également, puisqu'on avait initié cette thématique par ça. Il a joué le DJ, Toto. Voilà, le nom du courant de Plogotron. Voilà.
Et pour savoir, en fait, le chanteur.
J'imagine, t'as dansé le rock là.
Moi aussi.
Dans tes petits boom.
C'est ça qui danse bien en plus,
les petites boom là-bas.
Le rock, non.
Mais oui, j'ai dansé le rock, quoi.
J'ai dansé notamment dans mon premier voyage à l'étranger scolaire en Allemagne. Les premiers effets de l'alcool via la bière, j'ai
à consommer avec modération, bien sûr.
Et je vous conseille la coiffure des membres de ce groupe, dont Limahl, donc le chanteur, qui avait fait aussi la chanson de l'Histoire sans fin, le film des Unendliche Geschichte en Allemagne.
Oui, die Unendliche Geschichte. C'est allemand première langue.
Ah ouais, toi aussi.
Bah, c'est génial,
vous avez des vidéos ouf, les mecs. Dans un instant, un vite tranché. De Thibault Leplat.
Il y a même effraction.
Didier Deschamps toujours invaincu, mais t'as vu les premières limites de Nice, ça avait tranché de Thibault Leplat dans un instant sur RMC avec Flo Gautreau, bien sûr, à tout de suite.